Toute cette semaine, Joël Gayot rencontre Pierre Berger. Ce soir, l'art du temps. Bonsoir Pierre Berger.
Bonsoir.
C'est l'heure de notre second rendez-vous. Nous sommes toujours à la Fondation Pierre Berger Yves Saint-Laurent, avenue Marceau à Paris. Hier, nous avons parlé d'Yves Saint-Laurent, l'homme avec qui vous avez partagé votre vie. Nous avons parlé de l'art de l'amour. Ce soir, je vous propose une autre étape, c'est le temps, l'art du temps, selon Pierre Berger. Alors, vous avez écrit un livre très doux et très tendre. Son titre ne dit pas son réel contenu. Vous l'avez intitulé « Les jours s'en vont, je demeure ». En fait, de jours qui s'échappent et filent entre les doigts, vous y dressez le portrait d'amis aimés. Ils sont nombreux, on y reviendra. Mais je voudrais, pensant à ce titre très beau, « Les jours s'en vont, je demeure ».
C'est Apollinaire, comme vous le savez. Sous le pont Mirabeau coule la Seine et notre amour. Les jours s'en vont, je demeure.
Vous connaissez beaucoup de poésie par cœur ?
Oh oui, pas mal. Ça dépend. Je connais le début de Polyeucte par cœur. Je connais des poésies, beaucoup de poésie. Et puis, je connais, puisque j'ai eu la chance de faire pas mal d'allemand, je connais des poésies allemandes par cœur.
En allemand, donc ?
Bien sûr. Ce qui ne me servent à rien, d'ailleurs. Je tiens à vous le dire.
Mais est-ce que la poésie est là pour servir à quelque chose ?
Non. Mais j'adore la poésie. J'adore les poètes français. Et Louise Labbé, entre autres. Ou Marot. Mon beau printemps et mon été ont fait le saut par la fenêtre. Merveilleux ça, non ?
Voilà qui nous ramène au temps.
Oui.
Pierre Berger, est-ce que ces jours qui s'en vont, c'est-à-dire ces amis qui meurent, qui s'éloignent, qui disparaissent, tandis que vous, vous demeurez, c'est effectivement un peu de lumière qui s'éteint et un peu de nuit qui gagne ?
Bien sûr. Je dis d'ailleurs, probablement dans ce livre, qu'il y a des jours où la nuit tombe plus tôt que d'habitude. C'est ça que j'ai voulu dire. Oui, la nuit gagne. Puis bientôt, elle vous entoure. Puis bientôt, il n'y a plus qu'une heure de jour. Puis après, c'est fini. Oui, ce qui est emmerdant avec ça, c'est que les amis disparaissent et qu'on ne les retrouve plus. Mais moi, j'ai décidé de ne pas me laisser avoir par ça. Et j'ai des nouveaux amis. Et ils sont jeunes. Ils ont 20 ans, 22 ans. Et ce sont des amis très vrais, très sérieux. Ce n'est pas du tout des rencontres comme ça. Et j'espère que je ne me suis pas trompé. J'espère qu'ils seront là encore.
Voilà. Alors, je sais que vous n'aimez pas tellement regarder en arrière.
Pas du tout.
Mais bon, c'est un peu le sujet
oui, bien sûr.
Ce qui nous réunit. Donc, je voudrais quand même qu'on revienne un peu sur votre enfance. Pas trop longuement, mais un peu.
Oui.
Pierre Berger, je disais hier que vous êtes né sur l'île d'Oléron, que vous avez assez rapidement quitté, en fait, pour aller vivre
dans l'île d'Oléron.
À Arceau.
En
1930, dans un milieu aimant, avec une mère institutrice, un père fonctionnaire des impôts. Vous êtes né entre deux guerres, également épouvantables l'une et l'autre. Est-ce que le fait de naître entre 14-18 et avant 40-45 s'est inscrit en vous d'une manière ou d'une autre ?
Bien sûr. Bien sûr. Ça a fait de moi un militant. C'est assurément vrai, ça. Vous savez, je suis né entre deux guerres, mais mes parents, qui étaient d'obédience anarchiste, j'ai entendu chez moi le procès de toutes les guerres. J'ai entendu surtout cette phrase qu'il répétait de Bertrand Russell, le philosophe anglais. Aucun des maux qu'on veut éviter par la guerre n'est aussi grand que la guerre elle-même. Voilà, il faut réfléchir à cette phrase. Et ceux qui disent que les guerres sont parfois nécessaires, il y a des guerres justes, se trompe. Il n'y a pas de guerre juste. La guerre, c'est sale. Mais c'est jamais nécessaire. Ça, j'ai une conviction profonde qui vient de mon enfance, qui est peut-être excessive, j'en sais rien. Mais moi, je l'assume. Je l'assume. Il est de bon goût de détester le pacifisme. Bien sûr, il y a le pacifisme qui est tombé dans la collaboration. Je ne l'ignore pas, mais je ne parle pas de celui-là, moi. Je ne parle pas de ces pacifistes-là. Ceux qui sont tombés dans la collaboration n'étaient pas des vrais pacifistes, d'ailleurs. Puisqu'ils ont choisi le camp de la guerre. Moi, je parle de ceux qui préfèrent la paix. Pas le civis pacem para bellum, mais le civis pacem para pacem. Voilà. C'est très naïf, mais c'est comme ça.
Vous m'avez dit, Pierre Berger, lors d'une précédente rencontre, on essaie de retrouver les rêves et les fantasmes de son enfance.
Oui.
Et vous étiez resté silencieux sur ses rêves et ses fantasmes à ce moment-là?
Oh, écoutez, oui, parce qu'ils n'étaient pas différents du rêve, des rêves et des fantasmes des autres. Pas du tout, je n'ai pas été un enfant, je n'ai pas donné mon premier récital à 6 ans. Je n'ai pas...
Vous avez, oui, enfin, vous avez lu David Copperfield à 9 ans, Guerre et paix à 14 ans.
J'ai lu David Copperfield.
Tous les jeunes ne peuvent pas en dire autant, je ne crois pas.
Oh, oui. Puis j'ai joué du piano, du violon. À partir de 5 ans, 4 ans, 5 ans. Mal, rassurez-vous, mal. Mais bon, c'est comme ça.
Mais la littérature qui entre dans votre vie très jeune...
La littérature qui entre dans ma vie très jeune...
C'est un appel du large, ça?
Ah ben, c'est toujours un appel du large. Et surtout quand on est dans un port. C'est un appel du large, mais... c'est pas que ça. Hein. C'est pas que ça. La littérature, c'est quand même la musique. Si on écoute la sonate opus 27 de Beethoven, dite au clair de lune, en pensant au clair de lune, on ne comprend pas grand-chose à la musique. Il faut quand même l'écouter en pensant à la musique, et à la musique seulement. Les livres, c'est ça. C'est pour ça que j'ai une telle passion pour Flaubert, parce que Flaubert ne s'embarrasse pas d'histoire. Il n'en a d'ailleurs pratiquement pas, mais autour d'un canevas, je dirais, se tisse une écriture extraordinaire, avec une économie de moyens. Moi, j'aime les gens économes, j'aime les artistes économes. Je trouve qu'il faut secouer très fort, et encore plus fort, l'arbre pour faire tomber toujours les fruits. Et que ce qui reste, c'est ça qu'il fallait. Pas autre chose. On met toujours trop de choses.
Vous diriez ça, Jean Giono, que c'est un écrivain économe?
Non, c'est
Pierre
pas
Berger.
L'écrivain.
Je parle de lui parce que vous lui avez écrit depuis La Rochelle, quand vous étiez adolescent.
Oui.
Pour lui demander, je crois, de participer à
un journal que j'avais créé.
Que vous aviez créé.
Déjà.
Oui.
Déjà.
Le premier, donc c'est riche.
Le premier,
on reviendra à cette...
et il s'appelait Dominique parce que j'étais au lycée Eugène Fromentin à La Rochelle et que Eugène Fromentin commençait à écrire un livre fameux qui s'appelle Dominique. Giono m'avait répondu, puis je suis resté en rapport avec lui épistolaire, mais pas très fréquent. Et après, quand j'ai été appelé au service militaire à passer mon conseil de révision, je voulais être objecteur de conscience. Naturellement, en faire part à Giono était pour moi une évidence. Je vous rappelle qu'il avait écrit « Refus d'obéissance » avant la guerre, qui lui avait valu d'être en prison au début de la guerre. Et Giono m'a répondu. Et de ce jour-là, s'est nouée une espèce de relation qui devait se transformer en amitié et qui devait se transformer beaucoup plus que ça. En une tendresse profonde, de part et d'autre. Voilà.
Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous quittez La Rochelle pour venir à Paris, Pierre Berger?
J'aurais tout quitté pour venir à Paris.
C'est vrai?
Tout.
Les choses pour vous se passaient à Paris?
va se passer évidemment pas à La Rochelle.
C'est certain.
Non, mais il faudrait dire qu'aujourd'hui, on ne se rend pas très bien compte de ça. Mais en 1947, La Rochelle, comme le reste de la France, c'était rien, c'était un trou. Il n'y avait pas ce qu'il y a aujourd'hui, des associations culturelles, des films qui viennent, des choses comme ça, ça n'existait pas. Moi, j'avais fondé un ciné-club à La Rochelle, j'avais fait beaucoup de choses pour essayer de m'apporter de l'oxygène, mais ça ne marchait pas très bien. Et moi, je voulais venir à Paris, je voulais être écrivain. Et le meilleur moyen, à mes yeux, d'être écrivain, parce que j'imaginais bien qu'on n'est pas écrit, François Sagan n'était pas né encore, et j'imaginais bien que je ne savais pas qu'on pouvait comme ça dévaliser la gloire, comme elle l'a fait. Mais je savais bien qu'on ne gagnait pas sa vie comme ça. Alors je voulais être journaliste. Voilà. Et je suis venu à Paris pour ça. Et j'ai pas passé mon bac pour ça. Et je me rappelle mon professeur de latin grec me dit, mais vous êtes fou, il faut passer votre bac. Mais je ne veux pas passer mon bac. Mais vous ne vous rendez pas compte, quand vous allez arriver à Paris, la première chose que vous demandera le rédacteur en chef d'un journal, c'est est-ce que vous avez votre bac. Il est mort, ce professeur de latin grec. Sans ça, j'aimerais bien lui dire, j'ai pas le bac, mais j'ai acheté le journal Le Monde. Voilà.
Vous arrivez à Paris, donc vous avez 18 ans, je le disais. Est-ce que, lorsque vous repensez à ces premières années où vous rencontrez énormément de gens et beaucoup d'écrivains d'ailleurs,
oui,
énormément d'écrivains, le temps pour vous, à ce moment-là, puisqu'on parle du temps, vous le revoyez comme en accéléré?
Oui, je le revois comme un accéléré parce que, en effet, si je repense à ces années-là, et surtout au bilan qu'on peut faire de ces années-là, évidemment, il y a toutes ces rencontres. Comment se sont-elles faites, ces rencontres? J'en sais rien, mais elles se sont faites. Et souvent, je suis étonné, moi-même. Et je ne comprends pas. Mais c'est... si c'était à refaire, j'en ferais exactement la même chose. Parce que, vous parlez du temps. Le temps est une chose très importante pour moi. Un de mes écrivains favoris, Proust, a mieux que personne parlé du temps. Il a commencé un livre qui commence par « Longtemps ». Il l'a terminé par le temps. C'est admirable, ça. Et Proust sait se servir du temps. Vous avez dit que je n'aimais pas regarder en arrière. C'est vrai. Je n'aime pas, mais il faudrait peut-être préciser que je n'aime pas les gens qui regardent en arrière en disant que c'était mieux hier qu'aujourd'hui. Moi, je pense que c'est mieux aujourd'hui qu'hier et que ça sera mieux demain. Aujourd'hui. Ça, j'en suis convaincu. On a atteint un niveau de technologie extraordinaire. On est allé dans la Lune, qui était réservée aux poètes. Seuls les poètes allaient dans la Lune, de mon temps. En tout cas, ils l'imaginaient. Là, on y est réellement allé. Donc, c'est formidable. Mais, j'aime le temps passé. Oui. Parce qu'il permet de mesurer celui d'aujourd'hui. Voilà. J'aime le temps passé parce que j'aime les souvenirs. Mais j'aime pas le temps passé pour se plaindre d'aujourd'hui.
Vous connaissez bien sûr la phrase de Paul Nizan dans Adan Arabi quand il dit « J'avais 20 ans ». Je ne laisserai personne dire que c'est le plus bel âge de ma vie, vie.
C'est tout à fait idiot.
Et c'est tout à fait l'inverse de ce que vous
c'est
pourriez dire,
vous, j'imagine. C'est tout à fait idiot. Un jour, j'avais
décidé... Vous étiez heureux à 20 ans, Pierre Berger?
Mais évidemment.
Vous étiez un homme heureux?
Évidemment que j'étais un homme heureux à 20 ans. J'étais inquiet de mon avenir, j'étais tout ça, ce que vous voulez. Mais 20 ans, c'est le plus bel âge de la vie. Et je ne laisserai personne dire que 20 ans, ça n'est pas le plus bel âge de la vie. C'est l'âge auquel on croit, à tout. C'est l'âge de l'amour, c'est l'âge des ambitions, c'est l'âge des rêves. C'est un âge formidable. Arrêtons, c'est d'une posture, disons. C'est une posture, cette phrase.
À cette époque, Pierre Berger, vous avez beaucoup de désirs dans vos mains et vos désirs très vite vont devenir actes. Comment fait-on, par exemple, pour se retrouver à 20 ans, une nuit en prison avec Albert Camus, qui a été votre cas?
Oui, ça a été mon cas.
Oui.
Je vous ai dit que j'étais un militant, que mes parents l'étaient, et que j'étais un pacifiste. Donc, c'était tout à fait naturel que je m'enroule derrière Gary Davis. Gary Davis était un Américain qui avait bombardé des villes françaises, dont Royan, et qui avait viré sa cutie, et qui s'était repenti, et qui avait jeté tout ça avec horreur, et qui était devenu citoyen du monde, et qui avait créé un mouvement des citoyens du monde, et qui avait essayé de planter sa tente, une tente de camping, là, à côté, place du Trocadéro. Parce que là, à côté, place du Trocadéro, était le siège de l'ONU, à l'époque. L'ONU, qui maintenant est à New York, était là, immédiatement après la guerre. Et en 48, puisque c'est en 48 dont je parle, il était là. Et il se trouve que moi, j'étais place du Trocadéro. Et tout de suite, je me suis enroulé derrière Gary Davis. On a créé un petit mouvement, parce que si j'étais en prison, dans une cellule en tout cas, avec Albert Camus, dans ce mouvement, il y avait Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, l'abbé Pierre, André Breton, Raymond Queneau, et j'en oublie. Donc un jour, nous décidons d'investir l'ONU et de manifester dans l'ONU. Alors, tout ça avait été organisé, bien sûr. Des billets avaient été pris pour que nous puissions, nous étions une vingtaine, 25, accéder à l'ONU, entrer et être au premier balcon, parce que c'était là que le public avait accès. Et nous arrivons donc là. Et puis nous étions tous remplis de tracts, cachés comme ça. Et Gary Davis, me rappelle, il était appuyé sur la rambarde du balcon. Et à un moment donné, c'est le représentant de l'Union soviétique qui prend la parole, et là, Gary se lève, il hurle, il crie, et hop, il envoie ça. Nous tous, nous envoyons aussi nos tracts dans la salle, mais la police arrive, tout le monde s'enfuit en courant, mais les deux qui couraient moins vite que les autres, c'était Albert Camus et moi, et un journaliste qui s'appelait Jean-François Armorin. Et nous avons été emmenés dans une cellule. Voilà. Ben voilà, j'avais 18 ans, Camus n'était pas encore prix Nobel. Et en sortant de là, vers 5-6 heures du matin, on a bu un café à la brasserie du Coq. Camus est parti, on s'est dit au revoir. Et moi aussi.
Est-ce que, Pierre Berger, vous diriez qu'assez vite, finalement, votre temps intime, votre temps à vous, votre temps personnel, le temps de Pierre, est devenu un temps public, que, au fond, votre histoire a rencontré à un moment donné la grande histoire, c'est-à-dire l'histoire de la France, en l'occurrence.
Parfois la croisée, mais pas tout le temps. Oui, parfois la croisée, oui, je suis très content de ça, je ne suis pas fier, mais je suis très content, bien sûr. Mais même quand c'est un temps... comme celui que je viens de raconter, de Gary Davis, qui est bien oublié maintenant. Il n'empêche que ces souvenirs-là, pour moi, oubliés ou pas, ça fait partie de ma mythologie personnelle, que je n'abandonnerai pour rien au monde.
Comment est-ce que la politique rentre dans votre vie ? Pierre Berger, après ça, après cette période avec Gary Davis, la politique au sens où vous croisez à un moment la route de la gauche française et où vous allez accompagner cette gauche sans jamais, je pense, prendre votre carte au Parti Socialiste d'ailleurs. Mais,
ah non, il n'en est même pas question.
Mais vous serez présent aux côtés de la gauche, que ce
Bien
soit...
Sûr. Alors là, vous posez une question, il faut vous répondre et ne pas dissimuler les choses. Sans ça, je n'aurais pas accepté de votre émission. J'ai abandonné la politique le jour où j'ai rencontré Bernard Buffet et davantage encore Yves Saint-Laurent. Je n'ai pas abandonné mes idées, je n'ai pas abandonné ma pensée, je n'ai pas abandonné mes émotions, je n'ai pas abandonné mon jugement, mais j'ai abandonné l'action. Complètement. Et puis, peut-être parce que j'avais réussi ce que je m'étais promis, à savoir de permettre à Saint-Laurent, chassé de chez Dior, de recouvrer son trône et de redevenir ce qu'il était, le plus grand couturier de la deuxième partie du XXe siècle. Peut-être pour ça, par le jeu des rencontres d'ailleurs, par le jeu des rencontres, le jeu d'avoir rencontré Bernard-Henri Lévy, Harlem Désir, des gens comme ça. Et je me suis remis à militer dans le SOS Racisme, qui est un mouvement, qui était un mouvement, mais qui l'est toujours, qui me tient très à cœur, parce que je suis très viscéralement antiraciste. J'ai vu trop de choses horribles se faire au nom du racisme. Puis voilà, les choses ont été comme ça. Puis un beau jour, j'avais rencontré François Mitterrand auparavant avec Edmond Charleroux, Gaston Defer, à l'occasion d'un dîner qui avait été donné pour les ballets Roland Petit et Zizi Jonmaire, où j'étais invité. Et François Mitterrand était là, à notre table. Enfin, j'étais à côté d'Edmond, qui est une très, très, très vieille amie qui vient de mourir. Et voilà. Mais je ne connaissais pas François Mitterrand. Et les années, quelques années ont passé, je ne connaissais toujours pas. J'avais suivi avec, évidemment, beaucoup d'intérêt son parcours. Puis, un jour, pas Jacques Lang, je rencontre François Mitterrand. Et là, les choses ont complètement changé. On va s'arrêter là une seconde pour dire que, et pour faire comprendre qu'on ne décide pas de devenir l'ami du président de la République. Et surtout pas quand ce président de la République s'appelle François Mitterrand. Et que si l'on devient un ami très proche du président Mitterrand, c'est parce qu'il l'a voulu et c'est parce qu'il l'a décidé. Donc, un jour, après sa réélection, pendant sa réélection, j'ai fait tous les meetings de François Mitterrand, tous ceux qu'il a fait en France, que ce soit à Rennes le premier, et puis à Toulouse, et puis à Strasbourg, partout. Et là, nos liens se sont évidemment consolidés. Puis un jour, à Strasbourg, après un meeting, il y avait un dîner organisé, il m'avait pris à sa table, et à côté de nous, il y avait Michel Piccoli, Patrice Chéreau, je ne sais plus qui. Et je lui dis, Monsieur le Président, vous avez dû connaître, vous, la Tour de Feu, magazine qui se publiait à Jarnac, sa ville de naissance. Ah, mais il dit, bien sûr que j'ai connu la Tour de Feu. On parle un peu. Je dis, mais il y avait de très bons poètes, oui. Je dis, il y avait un poète que j'aime beaucoup, moi, qui s'appelle René Guy Cadou. Et il se met à réciter un poème de René Guy Cadou que personne ne connaissait à table. Et même personne ne savait qui était René Guy Cadou. Ben, ça, je pense que c'est le marqueur qui a décidé de notre amitié. Quand il a été élu, tout de suite, il m'a invité, il était élu en mai, il m'a invité à la Pentecôte, à Salutré, deux week-ends au mois d'août à Lacce, et la première fois où je suis allé au réveillon du 31 janvier, je devais y aller jusqu'à sa mort, aussi à Lacce. Donc je suis devenu un ami, pas seulement de François Mitterrand, mais de la famille, de sa femme, pour qui j'avais une grande, grande affection et de l'admiration. Voilà. C'est ça mon amitié avec François Mitterrand. Et
il y a un peu plus que de l'amitié, Pierre Berger, quand vous écrivez « Inventaire Mitterrand ». C'est à la fois de l'amitié et on sent aussi que c'est un désir de resituer cet homme dans l'histoire de France, parce que cette histoire, elle vous tient aussi à cœur, comme à lui.
Elle me tient à cœur, mais j'ai aussi eu le sentiment qu'il fallait réparer une injustice. Parce que quand j'ai entendu Lionel Jospin, pour ne pas le nommer, parler d'un droit d'inventaire, je n'ai pu que être stupéfait. Comment oser parler de ça, de François Mitterrand? Ce ne sont pas des propos d'un homme politique, ça. C'est des propos d'huissier. Et quand on doit tout à François Mitterrand, on ne va pas faire un inventaire. Et moi, j'ai fait l'inventaire, alors. C'est paru chez Stock. Ça s'appelle Inventaire Mitterrand. Je ne cache rien. Ni la Francisque, ni l'affaire Bousquet, ni sa jeunesse chez les Croix de Feu ou proche des Croix de Feu. Rien. Mais je montre comment cet homme, d'où il vient, qui il est, ce qu'elle était son enfance, quel a été son trajet, et comment il est arrivé à être ce socialiste. Et le premier président de la République de gauche, par deux fois.
Merci beaucoup, Pierre Berger.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Joël Gayot avec Pierre Berger. À voix nue, attaché d'émission Claire Poinsignon. Prise de son Arthur Gerbeau, Loïc Duros. Réalisation Anne Pérez. Coordination Béline Dola. Cette émission s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.